Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure. Après les informations, nous retrouvons Christophe Mali qui nous parlera du personnage de la semaine, et cette semaine, c'est Vladimir Poutine, puis Grégory Pless qui reçoit Valérie Le Mercier pour son film Aline, dédié à Céline Dion, et tout de suite, votre journal. Un journal principalement consacré à la guerre en Ukraine depuis jeudi, qui a fait la cible directe des troupes de Moscou. La population se prépare à tenir un siège. Il y a quelques heures, le Kremlin a fait savoir que son offensive s'étend désormais à l'ensemble de l'Ukraine. Résultat, de nombreuses villes subissent les assauts des troupes russes. On fait le point sur la situation dans ce journal et les conséquences de cette invasion. Moscou essuie plusieurs sanctions économiques et diplomatiques. L'Europe a discuté il y a quelques heures d'une troisième vague de mesures alors que les livraisons d'armes à Kiev se multiplient. Tout d'abord, en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland, averses et vents balayent toujours les 1000 km de côte. Une sixième personne est décédée suite aux inondations depuis le début de la tempête. Des alertes aux vents violents et averses sont en vigueur à Bundaberg, dans la région de White Bay Burnett, dans le Queensland, jusqu'à Port Macquarie, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Dans le Queensland, des averses violentes totalement imprévisibles ont tué 5 personnes et des centaines d'habitants ont été évacués. Un corps d'un homme de 37 ans porté disparu depuis vendredi dans les inondations près de Gympie a été retrouvé par des plongeurs de la police samedi. La découverte est survenue après qu'une volontaire SES ait été tuée dans sa voiture. Elle a été emportée par les crues alors qu'elle se dirigeait près d'Ipswich vendredi soir pour porter secours à des personnes. Dans le New South Wales, un homme est décédé vendredi matin sur la côte centrale après que son 4x4 ait été emporté également par les eaux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé samedi son intention de couper plusieurs banques russes du système bancaire international SWIFT, conséquence de l'invasion de l'Ukraine. S'exprimant à Bruxelles, elle a déclaré que l'Union européenne et d'autres puissances occidentales, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, envisageaient de paralyser ce qu'elle avait qualifié de « machine de guerre » du président russe Vladimir Poutine. Elle a expliqué qu'en coupant la Russie du système, les transactions seraient gelées et il deviendrait impossible pour la Banque centrale de liquider des actifs.
The European Union and its partners are working to cripple Putin's ability to finance his war machine. First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system, and it will make it impossible for the central bank to liquidate assets.
D'autres sanctions proposées incluent l'interdiction pour les oligarques russes d'utiliser des actifs sur les marchés financiers de l'Union européenne. La Russie affirme que son assaut contre l'Ukraine ne vise que des cibles militaires, mais des ponts, des écoles et des quartiers résidentiels ont été touchés depuis le début de l'invasion russe jeudi. Et pendant ce temps, les autorités maritimes françaises ont saisi samedi un cargo battant pavillon russe transportant des voitures et a été dévié à Boulogne pour enquête. Après 3 jours, l'Ukraine s'enfonce donc dans la guerre. Après Kiev aujourd'hui, c'est une grande partie des villes du pays qui sont visées par l'armée russe. Du coup, un couvre-feu a été décrété hier en fin de journée dans la capitale ukrainienne et restera en vigueur tout le week-end et cela jusqu'à lundi, 8h. À Kiev, Yelena Tomich pour RFI.
La mairie de Kiev a indiqué plus tôt dans la journée que toute personne présente dans la rue pendant le couvre-feu sera considérée comme ennemie. Les combats pour la prise de la capitale ont repris à la nuit tombée avec un nouvel assaut sur l'avenue de la Victoire qui conduit au centre de Kiev. Au-delà de l'appel à combattre et de la distribution des armes, la population a reçu des instructions sur la manière de confectionner, par exemple, des cocktails Molotov. D'après les sources occidentales, il faut s'attendre à des combats, je cite, « longs, destructeurs et meurtriers ». L'état-major français estime que des immeubles seront inévitablement touchés par des frappes. Concernant la situation dans les autres grands centres urbains, pour l'instant, la Russie n'a pas pris le contrôle total d'une ville ukrainienne. Moscou a revendiqué le contrôle de Mélitopol ou de Kherson au nord de la Crimée, mais ces informations n'ont pas été confirmées de sources occidentales. Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs annoncé que des troupes russes s'approcheraient dangereusement de la centrale nucléaire de Zaporijjia, l'une des plus grandes centrales en Europe, située au nord de la Crimée. Des combats violents sont également signalés dans le sud du pays. Enfin, le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, a annoncé le déploiement de combattants qui répondront aux ordres de Vladimir Poutine. Selon la chaîne d'État russe RT, il serait déjà 12 000 sur le territoire ukrainien.
En face aux attaques russes, l'armée ukrainienne continue de se battre. Des armes ont été distribuées aux civils dans la capitale. Des volontaires venus de l'ouest du pays prêtent main forte aux habitants de Kiev. À Dnipro, une ville presque d'un million d'habitants, à 500 km au sud-est de Kiev, les autorités ont demandé à la population de se rendre dans les centres de santé afin de donner leur sang. Les services médicaux souhaitent constituer des réserves qui peuvent être envoyées dans tout le pays. Anastasia Biekio, envoyée spéciale pour RFI avec Boris Vichit.
Dans un froid glacial, des dizaines de personnes font la queue devant l'établissement régional de collecte du sang. La file s'étire le long du bâtiment et sort jusque dans la rue. Des volontaires distribuent du thé. Un homme, la soixantaine, vient de se faire prélever son sang. C'est le minimum de ce que je peux faire pour aider l'armée et les blessés qui risquent d'être nombreux. Tout ce qui sera en mon pouvoir, je le ferai pour défendre mon pays, dit-il. Une responsable sort pour annoncer que certains groupes sanguins ne sont plus requis aujourd'hui. Les groupes A et B ont fait le plein en 3 jours depuis que la collecte de sang a débuté ici. D'autres se voient recalés parce qu'ils ont pris des médicaments ou des laitages depuis moins de 6 heures. Ils s'en retournent chez eux, déterminés à revenir demain. C'est le cas d'une jeune fille venue avec sa mère. Je ne peux pas faire grand-chose pour aider l'armée, mais 200 centilitres de mon sang pourraient sauver 2 personnes, dit-elle. Mon aide au pays ne s'arrêtera pas là, prévient un père de famille de 5 enfants qui a déjà aménagé un abri sous sa maison. Après avoir donné son sang, il va s'inscrire auprès des forces de défense territoriale pour épauler l'armée. Je prendrai les armes, s'il le faut, dit ce russophone. Il n'arrivera rien de bien si les Russes viennent jusqu'ici. Anastasia Bekio, Boris Vichit, Dnipro, RFI.
Après 3 jours de combat, les premières estimations du bilan humain sont tombées. Le gouvernement ukrainien a fait part d'un état de 198 civils tués et de plus d'un millier de blessés depuis le début de l'invasion russe. Des dizaines de militaires ont également perdu la vie. La Russie, quant à elle, ne donne aucun bilan sur ses pertes pour le moment. Devant l'avance des troupes russes, les familles ukrainiennes fuient le pays. Le commissariat des Nations Unies aux réfugiés estime que plus de 116 000 personnes ont depuis jeudi traversé la frontière. Pour les pays voisins de l'Ukraine, comme la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Moldavie ou encore la Roumanie. À l'inverse de l'Europe, certains pays refusent de se positionner en faveur de l'Ukraine. C'est le cas notamment de la Chine. 6 000 de leurs ressortissants sont sur le sol ukrainien en attente d'être évacués et font face à la montée d'un sentiment anti-chinois qui oblige leur ambassade à leur recommander de cacher leur identité. On retrouve tout de suite Stéphane Lagarde pour RFI.
Les messages de l'ambassade de Chine à Kiev sont relayés sur le réseau social Weibo sur fond de grosse musique. Entendez-vous bien avec le peuple ukrainien, essayez de ne pas sortir de chez vous. Affichez aucun signe montrant que vous êtes chinois. Ces messages témoignent de la détérioration de la situation en Ukraine, notamment pour les citoyens et entreprises chinoises à qui la même ambassade recommandait au premier jour de la guerre d'afficher bien en évidence les couleurs chinoises sur leur voiture pour quitter la région. Résultat, rupture de stock, plus aucun drapeau chinois à Kiev. Un étudiant raconte qu'on lui a volé le sien, qu'il avait accroché à son sac, un Kazakhstanais d'y avoir dessiné le drapeau rouge aux étoiles or sur sa voiture à l'aide d'un rouge à lèvres et de stickers pour accompagner sa fiancée chinoise à l'aéroport. Partout, les mêmes témoignages d'attente sur les réseaux. Beaucoup de gens étaient paniqués, ils ont tous été faire des provisions au supermarché. On se prépare à partir, raconte une étudiante originaire de Jilin, dans le nord-est de la Chine. J'ai commencé à emballer quelques colis, je ne prendrai qu'une petite valise crise, dit M. Chen, lui aussi, sur le départ à Odessa. Le port d'Odessa, où un compte Weibo avec de nombreux abonnés recommande de faire attention à la rhétorique anti-ukrainienne qui a provoqué la montée du sentiment anti-chinois en Ukraine. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
La météo de ce dimanche à Perth, alternance de nuages et d'éclaircies avec un thermomètre qui affichera les 34 degrés. Adélaïde, ciel partiellement couvert et 32 degrés. Melbourne, ciel bien chargé, un temps humide et un maximum de 27 degrés. Hobart, pluie possible et 22 degrés. Canberra, puis au programme de ce dimanche, 24 degrés prévus. Sydney, pluie et un maximum de 23 degrés seulement. Brisbane, averse et 28 degrés au thermomètre. Cairns, ciel partiellement couvert, 36 degrés. Darwin, pluie et orage pour un maximum de 29 degrés. Le rappel des titres du journal essentiellement consacré à la guerre en Ukraine. Depuis jeudi, Kiev est la cible directe des troupes de Moscou, où la population se prépare à tenir un siège. Les conséquences de cette invasion, Moscou essuie plusieurs sanctions économiques et diplomatiques. L'Europe a discuté il y a quelques heures d'une troisième vague de mesures alors que la livraison d'armes à Kiev se multiplie. Il est 13h10, on fait une courte pause et on se retrouve avec Benjamin Biolay sur SBS.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
Dans un instant, on a rendez-vous avec Christophe Mallet et le personnage de la semaine qui est Vladimir Poutine.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Notre personnage de la semaine, Vladimir Poutine, le président russe au pouvoir en Russie depuis plus de 20 ans. Sa décision d'attaquer l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi fait planer la menace d'une troisième guerre mondiale. Qui est vraiment Vladimir Poutine? Quels sont les ressorts de sa motivation? Nous y revenons à travers des extraits des journaux télévisés et des documentaires de France Télévisions.
Bonsoir à tous. La guerre aux portes de l'Europe est désormais une réalité. Édition spéciale sur l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. On compte déjà des dizaines de civils morts. Des attaques simultanées sur plusieurs villes. Ce soir, les combats se rapprochent.
Tout a basculé cette nuit à 3h48 heure française. Vladimir Poutine déclare la guerre à l'Ukraine.
J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Pour ce faire, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine.
Moins de 20 minutes après la fin de son discours, les premiers missiles russes s'abattent sur l'Ukraine et réveillent des habitants terrifiés. En seulement quelques heures, 74 installations, dont 11 aérodromes, sont détruits et les troupes russes progressent.
Des soldats ukrainiens qui fuient, la sonnerie qui retentit à Kiev, image ici ce matin de la capitale ukrainienne où les choses s'accélèrent, des combats sont en cours au nord de la ville en ce deuxième jour de guerre. Bonjour à tous, bienvenue. La ville de Kiev pourrait être prise par les forces russes.
Mais quelles sont ses intentions? Enjeu de pouvoir sur les ambitions de Poutine. Le président russe a d'abord une crainte majeure. L'Ukraine, aux portes de la Russie, souhaite rallier le camp d'en face, l'OTAN. Une alliance militaire occidentale de 30 pays, dont la France et les États-Unis. Pour Poutine, c'est une ligne rouge, dangereuse pour la souveraineté russe.
Vladimir Vladimirovich Poutine.
Sa vie se lit comme un roman d'espionnage. 22 ans de pouvoir et de rapport de force. suractivité des services secrets, pression militaire, cyberattaque. Il sème le trouble en Europe.
Nos relations avec la Russie, une fois de plus, sont au plus bas.
Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi, j'ai mon idée.
Nous nous retrouvons confrontés à la plus grande offensive jamais observée des services secrets russes.
C'est quelqu'un qui a une revanche à prendre sur beaucoup de choses.
Il s'estime trahi, il considère que les Occidentaux sont des indécrottables hypocrites.
À tous ceux qui cherchent à mordre la Russie, qu'ils sachent que nous leur casserons les dents.
Nous vivons dans un état étrange, qui n'est ni une paix véritable, ni une guerre classique.
Pour lui, la future guerre sera forcément hybride. C'est une guerre destinée à influencer les cœurs et les esprits des millions de personnes dans le monde.
Mais que veut Vladimir Poutine ?
Est-ce qu'on a réussi à lui fixer les lignes rouges ou est-ce qu'il reste à chaque fois le maître du jeu ?
Si les Occidentaux ne sont pas forts, eh bien, il avancera. Il avancera toujours.
Plongé dans la stratégie d'un homme, prêt à tout pour rester le maître du jeu.
Est-ce qu'on a réussi à lui fixer les lignes rouges ou est-ce qu'il reste à chaque fois le maître du jeu ?
Si les Occidentaux ne sont pas forts, eh bien, il avancera. Il avancera toujours.
Plongé dans la stratégie d'un homme, prêt à tout pour rester le maître du jeu.
Poutine était tout petit, mais il n'avait pas peur de se battre.
C'est quelqu'un de rancunier, il n'oublie jamais un affront. Il rêve de rendre à la Russie sa grandeur passée. C'est un patriote russe convaincu.
On ne fabrique pas un président en quelques mois d'un claquement de doigts. C'est impossible.
C'est le code de l'espion.
On n'oublie rien, on ne pardonne rien.
Notre culture, notre grande littérature, parle souvent d'hommes faibles.
Pour moi, Poutine est un personnage tragique.
Il aurait pu devenir un grand homme politique,
le meilleur dirigeant de notre pays depuis très longtemps.
Mais à un moment donné,
il a eu peur. Comme un mauvais alpiniste qui a grimpé trop haut, peut soudain prendre peur et ne sait plus comment redescendre. Il a eu peur et il a cessé d'être un dirigeant.
Une guerre sur le terrain, une guerre de communication aussi. Ce soir, le Kremlin affirme que ces attaques sont, je cite, une réussite. Dominique Derna, je me tourne vers vous. Vous êtes un bon connaisseur de la Russie. Vous avez été correspondant pendant plusieurs années de France Télévisions. Quel est l'objectif aujourd'hui de Poutine ?
Il est double, je crois, l'objectif de Vladimir Poutine. C'est d'abord de renverser le pouvoir en place à Kiev. Volodymyr Zelensky, le président qui a été élu démocratiquement en 2019, et renverser son gouvernement et instaurer à la place un gouvernement fantoche, des hommes de paille qui seront à la main de Moscou, qui feront ce que la Russie leur demande. C'est aussi un message qui est envoyé à l'Occident, un message extrêmement fort, on le voit aujourd'hui. Ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine seulement, c'est aussi une guerre contre l'Occident qu'a lancé Vladimir Poutine, contre les valeurs que l'Occident défend et représente, la démocratie, la voix du peuple. Vladimir Poutine est un homme qui ne respecte que la force et qui montre qu'il ne respectera que la force. Il a prévenu ce matin d'ores et déjà les Occidentaux en disant « Attention, dans les mesures de rétorsion que vous allez prendre, attention parce que vous pourriez le regretter », rappelant ainsi d'une façon à peine déguisée que la Russie est une grande puissance nucléaire.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h, ou à tout moment, en ligne. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Dans un instant, on retrouve Marianne Murat qui reçoit Karine, directrice artistique de l'Alliance française. Et elle nous parlera du French Film Festival qui démarre bientôt. Et puis nous retrouverons Valérie Lemercier sur SBS Radio.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On est à quelques jours du lancement du French Film Festival 2022 qui débute début mars jusqu'à la première semaine d'avril dans toute l'Australie. Melbourne, Sydney, Canberra, Perth, Brisbane, Adelaide et Byron Bay. C'est la 33e édition cette année et pour en parler, nous sommes en ligne avec Karine Maurice, la directrice artistique de l'Alliance française French Film Festival. Karine, bonjour.
Oui, bonjour.
Pour commencer, parlez-nous de votre rôle par rapport justement au French Film Festival.
Je suis l'attachée culturelle de l'ambassade de France.
Je suis située à Sydney, alors que l'ambassade est à Canberra. Et dans mes fonctions, en plus de mon travail qui est de créer des liens, des bridges, comme on dit, entre la France et l'Australie sur l'ensemble des arts, j'ai la direction artistique d'un des plus grands festivals de films français au monde, donc l'Alliance française French Film Festival. Et donc mon rôle en tant qu'attachée, en tant que directrice artistique, c'est de faire la sélection du film et vous apporter un line-up qui me semble cohérent avec ce qui est proposé en France, la vision de la France qu'on a et la France qu'on a envie de partager.
Comment est faite cette sélection? Comment les films sont-ils choisis, sélectionnés?
Alors, j'ai entièrement liberté pour la sélection des films. Je travaille main dans la main avec les distributeurs australiens. On a la chance d'avoir un marché ici en Australie très, très, très attiré par les films français. On a l'année dernière, sur cette édition qui était un petit peu spécifique parce qu'elle était au cœur du Covid, on a quand même fait 177 000 entrées, ce qui est quand même extraordinaire. Je regarde tout ce que me proposent les distributeurs français. Je pousse les distributeurs australiens à acheter. Par exemple, cette année, j'ai beaucoup échangé avec Palace sur Lost Illusion. Et j'ai été une des premières à le voir puisqu'on avait reçu un lien sans sous-titres. Donc, ils avaient un peu du mal à comprendre le film. Donc, j'étais obligée de leur dire, mais non, mais c'est masterpiece. On n'hésite pas, on y va. Et donc voilà, je travaille avec eux, ils m'appellent, ils me disent « Est-ce que tu penses que ce film peut rentrer dans la sélection ?» Je vois le film, je l'accepte, je refuse hein, quand même des films assez souvent, je ne me fais pas toujours des amis. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver des films qui vont embarquer le public australien. Il faut savoir que 85% de notre audience est australienne, ce n'est pas du tout un festival franco-français, c'est un festival pour les Australiens. Pour les Australiens qui aiment la France, qui aiment l'art de vivre et qui aussi qui aiment cette liberté d'expression qu'on retrouve dans le cinéma français. Et donc moi, j'ai vraiment travaillé sur cette édition à montrer la liberté de la France, de la liberté de nos directeurs, j'allais dire, de nos réalisateurs qui n'ont pas peur de proposer des thèmes difficiles, de parler de choses un peu taboues, de parler de l'amour différemment, d'écrire des romances qui finissent pas toujours bien. Et on est loin des stéréotypes blockbusters qu'on peut voir sur les États-Unis. Et donc, cette spécificité française, elle est très importante. Et donc, moi, j'essaie de la défendre et aussi de proposer des films qui me semblent, qui plaisent aussi à un public. On a aussi beaucoup de femmes australiennes qui ont envie de passer un beau moment, de retrouver l'art de vivre français qu'elles aiment à travers la gastronomie, à travers les romances, à travers les comédies. Et donc, c'est un équilibre à trouver entre les films un peu indépendants, voire sérieux, qu'on peut avoir les dramas, parce qu'on fait beaucoup de drames, on aime bien les histoires un peu tristes en France, et en même temps, avoir quelques pépites qui pétillent, qui sont drôles, qui sont décalées, pour aussi embarquer, répondre aux attentes aussi du public australien. Donc je commence ma sélection par Cannes, et après je vois pour ce film-là, pour 42 films, donc on a 42 films, 26 premières australiennes, 5-6 premières mondiales, je dis 5-6 parce que ça bouge tout le temps. Là j'avais un film, je l'avais en première mondiale, puis en fait ils ont décidé de le sortir le 26 février, donc je l'ai plus en première mondiale puisque le festival ouvre le 1er mars, donc ça oscille tout le temps. Et on a surtout 5 premiers films de jeunes talentueux réalisateurs et réalisatrices, et cette année on a 36% de réalisatrices, donc je suis très très contente aussi d'accompagner ces femmes et de pouvoir montrer leurs films.
C'est une évolution par rapport à l'édition 2021 ?
En fin de compte, l'année dernière, on n'en avait que 21%. Là, on est à 36%. C'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu des prix, comme Claire Denis, qui est dans le festival, qui vient d'avoir l'Ours d'Or à Berlin. On a aussi Audrey Diwan, qui a eu le Lion d'Or à Venise. Il y avait des années où on était déjà à 30%, des années où on est à 5%. Je n'ai pas vraiment d'explication. Moi, je ne fais pas ma sélection en disant « je prends ce film parce que c'est une femme ». Je fais ma sélection en me disant « ce film me touche, ce film m'embarque, ce film peut plaire, ce film coche les cages que j'ai dans ma tête et me donne surtout beaucoup d'émotions et je les prends ».
Justement, si on revient sur cette sélection de films, il y a des films qui sont plus des films d'auteur, des films, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont un peu plus du domaine du blockbuster. On voit aussi certains acteurs qui sont des acteurs célèbres, donc qui peuvent potentiellement attirer certains téléspectateurs, mais il y a aussi des films un petit peu plus confidentiels. Si j'ai bien compris, vous essayez de faire une sélection très éclectique. Est-ce que le public australien, mais également le public franco-français qui assiste au festival, recherche plutôt des grands films avec des grandes figures françaises ou plutôt des films confidentiels ?
C'est vrai qu'on a un casting un peu de rêve sur cette édition. On a tous les grands. On a Gérard Depardieu qui est extraordinaire. Il est dans trois films, mais il est extraordinaire dans Maigret. Il est très drôle, très touchant dans The Villa. Il est incroyable dans Lost Illusion. On a aussi Catherine Deneuve tout en sincérité, très très touchante dans Peaceful d'Emmanuel Berco. J'aime beaucoup ce film de René Clément qui est pas forcément très 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 connu. Enfin ici et avec un Alain Delon qui est flamboyant, qui est un de ses premiers films et qui est d'une beauté à tomber par terre. On a aussi Fanny Ardant. J'ai un film d'une délicatesse, d'une beauté avec Fanny Ardant qui est exceptionnelle. On a les acteurs qui sont très bankable en France, comme Sophie Marceau, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Virginie Efira, Juliette Binoche, qui est extrêmement connue ici, Laure Calamy, qui a très bien marché grâce à 10%, qui a été cette série qui a vraiment porté le cinéma français ici en Australie. Et on a toute une génération de jeunes artistes, de jeunes qui arrivent et qui montent. Et par exemple, le film d'Audiard, il a fait un film sur le 13e arrondissement de Paris, en noir et blanc, et avec que des inconnus, que des jeunes acteurs. Et je trouve ça formidable d'avoir cette place, de laisser cette place à la nouvelle génération. Et j'ai pas mal de films où il n'y a pas de stars dedans. La Traviata, My Brother and I, Mes frères et moi, qui est un premier film de Johan Mankand, il n'y a pas de tête d'affiche. Et je pense que c'est un film qui va marcher parce que c'est un film magnifique et qui est extrêmement touchant. Si vous prenez le film le premier film d'Agnès Volpé aussi, qui est Entre les vagues, avec il y a Angélique Kidjo, mais elle a un rôle second. Les deux caractères principaux, c'est deux jeunes filles, elles explosent à l'écran. Et c'est génial parce que je trouve qu'il y a un nouveau souffle. On n'a pas peur en France de prendre des acteurs qui sont pas très connus et faire de grands films. Et je crois qu'en plus, quand je discute avec les Australiens, à part Binoche, à part Isabelle Huppert et maintenant Virginie Efira qui commence à être pas mal connue, ils connaissent pas très bien les acteurs français, donc c'est pas forcément un créneau. En fait, on peut se permettre de proposer des films où il y a des gens qui sont un peu moins connus. Gilles Lelouch, il est dans trois films et en fin de compte il commence à être connu ici alors qu'il a explosé en France. Et pareil pour Vincent Lindon.
Vous avez évoqué certains films, alors on ne les a pas tous mentionnés bien sûr, puisqu'il y en a énormément dans cette 33e édition. Et vous parliez de Romain Duris et Virginie Efira, je vais me permettre moi de donner mon coup de cœur. C'est le film En attendant Bojangles, tiré du livre d'Olivier Bourdeau. Je l'annonce aux auditeurs, c'est mon livre préféré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce film que vous allez sortir au French Film Festival ?
Bon, déjà, je suis tout à fait d'accord avec vous, Marianne. Moi, quand j'ai découvert ce livre il y a 2 ans et demi, 3 ans, il m'a bouleversée. Je pense qu'il est important de le lire avant d'aller voir le film. Quand on voit la bande-annonce, alors du film, on a l'impression que c'est une sublime histoire d'amour, romantique, etc. Et en fait, on parle de choses aussi qui sont difficiles, comme la folie, quoi. Et j'avais hâte de voir comment ils allaient traiter ce film. Il y a un parti pris qui a été pris du réalisateur en consultant évidemment un auteur, parce que quand on adapte un film, on achète des droits à un auteur, et c'est comme dans la musique, on achète aussi on doit respecter l'œuvre. Donc là il y a une vraie discussion avec l'auteur, et le parti pris du réalisateur était non pas comme dans le livre de faire parler l'enfant, mais faire parler le père. Et donc c'est Romain Duris qui raconte un peu l'histoire, qui joue le père, qui joue l'amoureux. Et donc, c'est un petit peu différent, c'est le petit switch qui se prend par rapport au film. Moi, quand j'ai lu le bouquin, j'ai écouté non-stop la version de Mr. Bojangles par Nina Simone, qui est vraiment un de mes titres préférés, qui a été repris aussi. La version de Sammy Davis Jr. est incroyable. Et là, dans le film, elle est interprétée par un chanteur de New Zealand. Donc c'est assez marrant. Il y a un petit bridge avec notre partie du globe. Et Et donc, oui, il est flamboyant, il est magnifique, on retrouve... Après, quand on a lu le livre, à chaque fois, on imagine peut-être différemment les personnages. Est-ce qu'on aurait vu Virginie Efira? Est-ce qu'on aurait vu une brune? Est-ce qu'on aurait vu Romain Duris? Je pense qu'il faut aller voir ce film parce qu'il est magnifique. Et qu'il nous emmène à Paris. Il y a plein de fantaisies. Ça parle d'amour. Ça finit en château en Espagne. C'est magnifique. On a la chance d'avoir un cinéma qui a pas de frontières. Et donc, c'est vrai que dans la sélection de films, j'ai choisi deux films sans frontières, qui sont deux films que j'ai achetés, qui n'étaient pas distribués. Donc, j'ai un petit budget. Donc, j'ai acheté 20 séances parce qu'il faut que je puisse le présenter à l'ensemble du territoire. Donc, ça veut dire que sur chaque ville, sur ces films que j'achète, donc, qui sont Mally Twist et Memory Box, qui sont des films qui parlent de la francophonie, on a une ou deux séances par ville. Donc, il faut vraiment faire attention pour pas passer à côté. Et donc, c'est vrai que ces films-là qui sont sur le Mali, c'est des films, c'est Memory Box, c'est sur la guerre du Liban, c'est une coproduction canadienne, française et libanaise. C'est important, ça nous fait voyager, quoi. Ça nous permet aussi de sortir de notre quotidien et d'avoir une autre vision de la France et aussi de la francophonie, c'est important.
Donc on le répète, le French Film Festival édition 2022 débute au début du mois de mars, donc dans quelques jours. Peut-être que je mets la charrue avant les bœufs, mais est-ce que vous avez déjà la tête sur l'édition 2023 ?
J'ai déjà une liste de films que j'ai pas pu avoir pour cette édition et qui seront pour l'année prochaine. Des films qui devaient sortir plus tard, des films qui n'étaient pas terminés, des films qui veulent... ils ont peur aussi un petit peu les distributeurs français en se disant... Mon Dieu, la première mondiale est en Australie. Et si on a des mauvaises critiques, et si le film est piraté, s'il se retrouve sur les plateformes, ça tue notre sortie. Donc ils ont plein d'inquiétudes. Donc on passe notre temps à les rassurer. C'est vrai que avoir eu Eiffel en première mondiale 9 mois avant la sortie officielle, bah, ça a donné aussi à ce festival une légitimité. Et ça me permet aussi de rassurer les distributeurs. C'est pour ça qu'on a Maigret avec Gérard Depardieu qui est extraordinaire. Tiré de l'œuvre de Simonet en première mondiale. On a aussi Compromat, qui est un film d'action. Oui, la France sait faire des films d'action, qui est un super film d'action, genre Le Fugitif, et qui parle d'un directeur de l'Alliance française, mais c'est une histoire vraie en plus, qui se retrouve compromis dans une histoire et qui est en Sibérie, donc qui arrive à s'échapper de la Sibérie, à foncer, à essayer de rejoindre Moscou pour aller à l'ambassade de France. Donc c'est vraiment... Et Philippe Lelouch est incroyable dans ce film. Et donc voilà, j'ai déjà en tête une quinzaine de films.
Merci beaucoup Karine Maurice, on le rappelle, hein, vous êtes la directrice artistique de l'Alliance française French Film Festival. On vous souhaite bon courage pour les derniers préparatifs avant l'édition 2022. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci Marianne. Est-ce que je peux juste vous prendre encore 2 minutes? Je voudrais juste, parce que je me suis pas encore exprimée auprès des Français, donc je suis ravie de le faire en français. C'est ma première fois que je parle du line-up en français. Il y a vraiment des films qui parlent aux Français. J'ai aussi voulu faire plaisir aux Français, parce que je sais qu'on est loin, qu'on a été bloqué. Donc si vous pouvez faire passer le message, allez voir Authentique, c'est le film, le biopic sur NTM. Chaque fois que j'en parle en australien, ils connaissent pas du tout NTM. Bon, je pense que nous, on connaît tout NTM. Il a un super biopic et je l'ai acheté exprès pour le festival. Donc, j'ai que une ou deux séances par ville. Donc, faites bien attention, Authentique. Et il y a un autre film aussi que j'aimerais vous parler. C'est Paul W.R. Last Journée, le voyage de Paul W.R. C'est un premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Romain Quirot. Avec, dedans, il y a Jean Reno. Et c'est la première fois qu'on a un film de science-fiction français qui n'a pas été fait par Luc Besson, avec un budget de 1 million d'euros, donc ridicule. Il s'est battu pour ce film et il est génial. Moi, j'ai pris une claque, je ne suis pas une grande admiratrice, je ne suis pas une dingue de science-fiction, mais j'ai adoré. La musique, c'est que des titres des années 80. Et le gars, il a été capable, sur une scène un peu à la Tarantino, de nous mettre la musique de Mentalo, d'Eddie Mitchell. Donc, c'est super décalé. Ça va, mais ça, moi, en tant que Française, ça m'a éclaté. Donc, allez au cinéma, je vais retourner dans les salles, et puis faites-vous plaisir, parce qu'on a des films formidables dans cette édition, et n'hésitez pas à emmener vos amis australiens. Et évidemment, on a OSS 117, Donc, comment expliquer aux Australiens OSS 117, comment expliquer qu'on puisse avoir un personnage comme ça, raciste, misogyne, et en plus, c'est OSS par Nicolas Bedos, et c'est en Afrique, avec Pierre Ninet qui joue dedans. Allez le voir, il est très drôle, quoi. Mais c'est inexplicable. Je ne sais pas comment l'expliquer aux Australiens. Si vous avez une solution, aidez-moi. Je ne sais pas comment expliquer ce caractère, à part de leur dire que c'est du cinquième degré. Ne le prenez pas au premier degré, s'il vous plaît.
Et on est très heureux de pouvoir retourner au cinéma, ce retour à la vie normale qui fait du bien. Merci beaucoup, Karine.
Merci à vous. À très bientôt.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Votre communauté, vos conversations.
Alors, Céline Dion, vous le disiez aussi, c'est évidemment une star planétaire. Ça a d'abord été, bien sûr, au Québec, puis en France. Et puis, il y a eu Titanic. Et d'un coup, elle était partout à la fois. Et peut-être, vous connaissez sans doute beaucoup mieux son parcours que moi, mais il me semble que c'est à peu près à ce moment-là où elle est devenue vraiment une star mondiale, Las Vegas, etc., que justement, les moqueries ont commencé à venir. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte dans votre film que ça n'était pas spécifiquement franco-français. Et j'ai vu que tout récemment, vous aviez reproché à Yann Barthès, qui anime l'émission Quotidien en France, d'avoir de s'être longtemps moqué de Céline Dion dans ses émissions précédentes. Vous pensez que... pourquoi vous, ça vous a affecté autant? Et est-ce que vous pensez que Céline Dion a été marquée par ces moqueries?
Je pense qu'elle est au-delà de ça, mais je sais que René ne voulait pas qu'elle aille, et il avait bien raison, faire cette émission. Ce que je veux dire, c'est que ça a été un petit peu trop. Voilà, c'est pas... voilà, d'autres l'ont fait, il y a eu des choses plus... Mais voilà, il y avait un petit acharnement, mais qui est un peu parisien et un peu snob et un peu... Voilà, c'était de bon ton. Et je vois bien d'ailleurs sur le film, tout le monde me dit, moi j'ai beaucoup aimé le film, pourtant je la connais pas. Enfin, je sais pas pourquoi les gens se sentent obligés de dire qu'ils la connaissent pas ou qu'ils l'écoutent pas, qu'ils en ont jamais entendu parler, ce qui est quasiment impossible. Donc on peut pas. Ce que je veux dire, c'est que les icônes populaires sont pas si, dans le monde, dans le petit monde intellectuel, que ce soit au Québec, que ce soit en France, il y a quand même un peu de moquerie, comme avec Johnny, comme avec. Ce que je veux dire, c'est que il y a toujours, et moi je sais pas du tout le ton du ça. Quand je voyais ça, je me disais, mais ils en ont pas marre. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permise, comme ils m'ont remis gentiment un prix de meilleure réalisatrice hier, ou avant-hier, je sais plus, enfin bref, j'ai remis quand même dans le contexte ça. Et d'ailleurs, ils s'attendaient, quand ils attendaient mon film avec impatience, ils s'attendaient à ce que j'en rajoute une couche dans leur sens, ce qui n'était pas du tout. Moi, je sais que cette histoire d'amour et cette histoire de famille et cette histoire est vraie et c'est ça que je voulais remettre en place. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et Céline, je sais qu'elle a déjà donné des conseils à des gens qui l'imitaient pour mieux faire. Donc, elle a suffisamment d'autodérision pour pas. C'est moins que ça. C'est plus facile de quand on n'est pas soi-même, on va dire aux gens arrêtez de vous moquer de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai fait juste un tout petit phrase là-dessus. Voilà.
Alors, ce qui est sûr, c'est que
ça n'est pas le plus important de ce film.
Non, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, étant donné sa stature, on est tous, je pense, marqués par Céline Dion d'une manière ou d'une autre. Si je peux vous raconter une confidence, moi. J'ai roulé ma première galoche sur « Pour que tu m'aimes encore » pendant une boum.
Ah ben voilà.
Est-ce que vous avez un souvenir marquant lié à la musique de Céline Dion?
Ben oui, moi en fait, en 95, je jouais au Théâtre de Paris. Il y avait une ouvreuse qui s'appelait Zaya, qui est devenue après un personnage important de mes spectacles, qui était fan de ce disque que moi je connaissais pas. C'était marrant parce qu'elle trouvait, elle avait 20 ans cette fille, et elle trouvait qu'il y avait que je lui ressemblais, je sais pas pourquoi. Elle aimait beaucoup Céline et puis elle m'aimait bien aussi. Je jouais là tous les soirs Et voilà, donc elle faisait des chansons, où elle changeait les paroles, c'est les chansons de Céline, elle mettait Valou à la place, qui était comme ça qu'elle m'appelait, enfin bon, c'était marrant. Donc c'est comme ça que j'ai connu Céline.
Est-ce que maintenant que vous avez tourné ce film, vous pourriez tourner un autre biopic? Est-ce que c'est un genre qui vous plaît? J'ai lu que, en tout cas, le tournage d'Aline... vous avez dit que c'était le moment le plus heureux de votre carrière professionnelle. Est-ce que c'est lié à Céline Dion? Est-ce que c'est lié au fait de se mettre dans la peau d'un personnage de légende comme
ça? C'était très amusant à faire. Peut-être que c'est les forces vives de Céline, son côté tellement positif, enfin voilà, qu'elle dégage, qui faisait. Enfin, en tout cas, moi, j'avais habituellement sur les tournages toujours. Je me dis toujours que si on avait une petite semaine de plus ou deux de préparation, on serait mieux. Là, j'avais toujours envie de bondir pour mettre dans mon costume et de jouer. C'est un rôle que j'ai aimé jouer. Voilà. J'ai aimé jouer ce personnage et je pense qu'il y avait dans l'équipe aussi, les gens étaient heureux de faire ce film, d'y être, mais que ce soit les figurants sur les concerts, que ce soit les techniciens, que ce soit les... Voilà, il y avait une espèce de joie qui ne s'explique pas, où tout le monde était content d'en être. Enfin voilà, c'était... Et ne parlons pas que de moi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs québécois merveilleux que j'ai eu la chance de rencontrer. Je suis d'ailleurs contente qu'ils soient nommés au César la semaine prochaine. En tout cas, Daniel Fichaud pour La Mère et Sylvain Marcel qui joue Guy Claude, qui est donc son mari, manager. Mais la grande chance que j'ai eue, c'est de tomber sur des acteurs exceptionnels qui sont tous québécois, que personne ne connaissait en France. Et ça n'a pas été si simple à imposer en France, où les gens veulent toujours voir les mêmes têtes. Mais moi, j'étais déterminée et c'était absolument... capital que ce soit des Québécois, parce que ce n'est pas qu'une question d'accent. C'est pour ça que ça m'énerve un peu quand on fait des parodies de Québec. C'est toujours un truc d'accent, lo, on fait des lo partout. Mais moi, voilà, c'est aussi un état d'esprit, quelque chose de très généreux, de très ouvert. C'est un état d'esprit, c'est très exotique en fait. C'est loin. Je veux dire, on parle la même langue, mais on la met pas toujours dans le même sens. Et il y a des expressions québécoises. D'ailleurs, ça n'est pas un film sur les expressions québécoises. Il n'y a pas de tabernacle, de criscalis, toutes ces choses-là. J'ai pas mis ça dans le film. Mais c'est l'état d'esprit, la famille québécoise. On voit beaucoup de scènes de cette fratrie. Et voilà, ça parle aussi de l'état d'esprit. Voilà, c'est une façon d'être, et ça va au-delà de l'accent. Donc, je trouvais que c'est ça capital que ce soit joué par des vrais Québécois à qui j'ai demandé, par contre, de faire tout petit, qu'on les comprenne, parce qu'en fait, je crois que c'est le premier film en québécois qui n'est pas sous-titré. C'est-à-dire que nous, les films de Xavier Dolan, les films de Denis Arcand, les films québécois, on ne peut pas les comprendre, donc ils nous arrivent avec des sous-titres. Et là, je ne voulais surtout pas... Alors forcément, il faut faire des petits compromis, parce qu'il faut qu'on comprenne tout. Donc, si moi, je vais au Québec, je ne comprends pas tout. Donc, il y a quand même des petites choses où on ne se comprend pas. Donc, il fallait qu'on parle la même langue. C'était ça qui était important, au risque de faire, moi, un accent petit et de demander aux acteurs québécois de franciser un petit peu leur façon de parler.
Très bien. Une dernière question, un peu la question cliché du journaliste local, mais est-ce que vous êtes déjà venu en Australie, à Sydney, et si oui, est-ce que ça vous a plu?
Jamais, jamais. J'ai beaucoup voyagé, mais je ne suis jamais allée dans cette partie du monde et j'aimerais bien. Et j'aimerais bien, c'est encore plus exotique là, pour le coup, à part des photos, à part, voilà, non, je ne suis jamais venue, mais ce serait avec joie, j'aimerais beaucoup.
Bah écoutez, les frontières rouvrent aux touristes à partir de lundi prochain, donc n'hésitez
D'accord,
pas.
D'accord, mais alors moi je suis au théâtre tous les soirs, donc je ne peux pas bouger de Paris pour l'instant, mais jusqu'au mois de mai, mais j'aimerais beaucoup. J'aurais adoré venir pour la sortie du film. Voilà.
Merci beaucoup Valérie Mercier, vraiment un grand merci d'être intervenue sur notre antenne. Je rappelle donc que votre film est sorti hier dans les salles de cinéma en Australie et qu'on peut le voir un peu partout, Aline, et on recommande...
Et c'est aussi une comédie, je tiens, voilà, parce que je crois qu'on ne souligne pas cet aspect, mais c'est aussi une comédie, voilà.
Tout à fait.
Évidemment qu'il y a les deux, quoi. Il y a de la comédie et puis évidemment que c'est aussi parfois poignant, voilà.
Tout à fait. On en a pour son argent, en tout cas. Merci beaucoup encore, Valérie Lemercier. Je vous souhaite une très bonne journée, puisque c'est le matin chez vous, et bon courage pour toutes ces représentations théâtrales à venir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette ait continué de rendre le monde heureux, mais qu'elle poursuive ce qu'on a bâti tous les deux ensemble.
On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre.
Ah, voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec de Piano.
Voici Aline Dieu.
J'ai des grands rêves pour elle, puis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voie autre chose, qu'elle sorte de vos jupons.
With that.
Il faut pas se le cacher. Question d'audition, il y a quand même un petit trafic à effectuer. Je m'inventerai reine pour que tu me retiennes. Oh. Je me ferai nommer
pour que le feu reprenne. Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil.
Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé.
Une.
Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman.
Everywhere I go.
Cette folie-là, on va pas la faire, Aline.
Garde-moi bien droit dans les yeux. Puis dis-moi que tu m'aimes pas. On a land I've never seen.
Le rappel des titres du journal essentiellement consacré à la guerre en Ukraine depuis jeudi, qui a fait la cible directe des troupes de Moscou. La population se prépare à tenir un siège. Les conséquences de cette invasion, Moscou essuie plusieurs sanctions économiques et diplomatiques. L'Europe a discuté il y a quelques heures d'une troisième vague de mesures, alors que les livraisons d'armes à Kiev se multiplient. Merci d'avoir écouté SBS Radio, le programme en français. Vous retrouverez ce programme mardi. Et en attendant, vous pourrez réécouter à l'infini tout sur le site internet d'SBS.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.